Ce matin, nous allons partager ensemble, donc ouvrir la parole de Dieu avec ce titre « Pour une vie abondante ». J'aurais pu également l'intituler comme ça « Le secret d'une vie abondante ». La Bible, on va lire un verset d'introduction, « Pour une vie abondante » ou « Le secret pour une vie abondante ». Et je crois que plus que jamais, on a besoin... Parce qu'il y a une promesse de la part du Seigneur qu'il allait nous donner la vie. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. On trouve ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Ici, on va retrouver qu'il y a un adversaire qui est là avec un but. Le but, c'est, il nous est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais regardez ce que nous dit Jésus. « Mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors la question qui est tellement essentielle ce matin, à laquelle nous devons tous répondre, c'est « Est-ce que je vis l'abondance qui m'a été proposée, annoncée, promise par le Seigneur ? Est-ce que je vis l'abondance ?» Alors on ne va pas inverser les valeurs, on va parler de les valeurs essentielles pour le Seigneur, donc de cette vie abondante. Et pour avoir cette vie abondante, vous allez voir qu'il y a certains principes divins auxquels nous ne pouvons pas y échapper. Au contraire, nous devons fixer les regards sur ces principes-là et surtout les appliquer dans nos vies afin que nous ayons une vie abondante, une vie abondante donc promise par le Seigneur. Je vous pose cette question. Pas obligé de répondre, mais on est dans la réflexion. Si je vous avais demandé de dessiner un arbre, ben c'est sûr, pour certains qui sont artistes, par exemple, redessiner un bel arbre, un tronc, des branches, des feuilles, peut-être aussi des jolis fruits, pour faire joli. Si on avait donné cet exercice à chacun d'entre nous à faire, je ne suis pas certain que la plupart d'entre nous, en tout cas, je parle pour moi, j'aurais pensé à une chose tellement essentielle, les racines. Et ce matin, on va parler de racines, d'enracinement, et pour le secret d'une vie abondante, c'est nos racines. Et voir ensemble où plongent nos racines, où la Bible nous conseille, nous exhorte à plonger nos racines, et quand on va plonger ces racines, une chose est certaine. C'est que quand la tempête va venir, je vais exercer, là, dans les secondes qui vont venir, un don spirituel, une prophétie. En fait, je dis à chacun d'entre nous que vous allez traverser des moments difficiles. Vous allez traverser des tempêtes. Mais ce n'est pas obligatoire qu'après cette tempête, les vies soient écroulées. La Bible nous dit que si nous bâtissons et si nous plongeons les racines là où il faut, la tempête va venir, le vent va se lever, mais l'arbre et la maison, en l'occurrence par rapport au verset de la parole de Matthieu 7, va tenir parce que ses fondements seront solides. On aura bâti notre maison sur le roc. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, on va parler de racines. Et on trouve deux versets dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2. Colossiens 2, versets 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Ici, l'apôtre Paul rappelle à cette église de Colosse. Et il leur dit, vous avez reçu le Seigneur. Et ce matin, tous ceux et celles qui ont participé au repas du Seigneur, nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur et nous l'avons exprimé par des chants, par des louanges. Et c'est vraiment un privilège que le Seigneur nous accorde. Et donc, il est dit également, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez. Ce qui sous-entend que la vie chrétienne, c'est être en mouvement. Ce n'est pas de la stagnation où simplement on vit un plateau à un moment donné. Hein, donc on a progressé, puis il y a eu un plateau. On souffle un peu afin de pouvoir repartir. Ce n'est pas ce que nous dit la parole. La parole nous dit d'être toujours en mouvement, d'être toujours en marche. Alors pas de politique ce matin. Hein. Vous avez compris. Hein. Pas de politique dans l'Église. Hein. Mais le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est en marche, qui est en action. Alléluia. Et il est dit donc, marchez en lui, donc dans ce Seigneur qui s'est révélé à chacun d'entre nous, étant enraciné. Donc ça c'est l'exhortation tellement importante. Regardez les trois verbes là, enraciné, fondé et affermi. Trois choses tellement importantes. Donc enraciné en Christ, fondé, ça nous parle de solide fondation. Et affermi. Le Seigneur veut nous affermir pour nous amener, où ça? Dans une maturité spirituelle. On voit qu'il y a des désastres qui se passent dans certaines églises. C'est parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, justement, d'immaturité. Pour certaines choses futiles, il peut y avoir des drames dans certaines églises. Mais quand on est mature, on relativise certaines choses. Les choses secondaires, on les laisse à leur place. Et on se préoccupe des choses primordiales, essentielles pour la vie de l'Église et la vie en communauté. Alléluia, que nous puissions préserver cela parce que c'est tellement important. Donc, l'importance des racines. Si ce matin on réfléchissait, on se demandait, on voit un arbre donc, qui a été dessiné par le meilleur des artistes ce matin qu'il y a au milieu de nous, un bel arbre. Essayons d'imaginer si les racines n'étaient pas là. Qu'est-ce qui se passerait? C'est une image tellement parlante pour chacun d'entre nous et tellement logique à laquelle chacun d'entre nous pouvons répondre. Ben oui, un simple coup de vent, et il se retrouverait par terre. Et c'est parce que le Seigneur veut. Nous connaissons tous au moins une personne qui a fait une belle confession de foi, qui a fait une belle expérience, qui a donné sa vie au Seigneur, et je dis même une belle et une bonne conversion, et qui aujourd'hui se retrouve à terre et loin de Dieu, qu'on appelle les rétrogrades, quelqu'un qui a rétrogradé. Alors les causes peuvent être multiples, mais en tout cas, on s'aperçoit que quand on discute, quand les gens reviennent, donc parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur, et quand il y a un entretien, on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a eu les choses essentielles qui ont été un peu bâclées, puis attachées même aux choses secondaires, et il y a eu un manque de profondeur au niveau des racines. Alors, les épreuves, elles sont là également pour fortifier notre foi, évidemment. Mais donc l'épreuve et les difficultés vont venir, mais l'arbre qui va tenir, donc c'est celui qui plonge ses racines en profondeur. Les racines, quand on l'imagine, si on les dessine, j'ai regardé cette semaine, elles représentent un peu, il y a cette image, l'arbre avec un peu comme le pied de l'arbre, comme une assise qui permet d'être solidement ancré dans le sol. Et de quoi l'arbre a-t-il besoin, avant tout, pour vivre? Ça, c'est la seconde question. Alors, ça a été dit. De l'eau, tout simplement. Hein. Rassurez-vous, ce matin, rien de compliqué. Hein. Voilà, des fois, on a la réponse, on n'ose pas la dire. Mais en fait, l'arbre et les racines, elles plongent pour aller puiser l'eau et donc les minéraux dont il a besoin pour être en bonne santé. Où va-t-il trouver cela? Dans la terre où s'accumule l'eau de pluie et donc elle se ferait un chemin pour aller chercher ce don est primordial, essentiel pour sa vie. La question que l'on doit se poser ce matin, c'est où plonger nos racines? Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu, hein, parce que dans la simplicité, hein, de la parole, le Seigneur l'a rendue, en fait, simple, pour qu'on puisse comprendre au travers d'images toutes simples. On trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, où le Seigneur, ça c'est la petite parenthèse, dans l'Évangile de Jean, vous trouverez les sept « je suis », les sept affirmations de la part du Seigneur, en disant « je suis la porte, je suis le bon berger », et notamment ici, il va dire « je suis le cep, et donc, et vous, ceux qui me suivent, vous êtes les sarments ». Amen. On va lire ce passage, donc Jean chapitre 15, verset 1, et on lira jusqu'au verset 9. « Je suis », j'aime beaucoup, hein, vous rappelez, hein, ceux qui étaient là mardi, les petits détails de la parole. « Je suis le vrai cep ». Qu'est-ce que ça sous-entend, hein, qu'il peut y avoir un faux cep, voilà. « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on amasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Amen. Vous l'avez remarqué, au travers de ces 9 versets, il y a un mot qui revient, qui est répétitif. C'est le mot « demeurez », hein, vous l'avez remarqué. Mais demeurez pas n'importe où, demeurez en Christ. L'importance de demeurer en Christ, et donc c'est cet exemple du cep, et du sarment, ça nous semble tellement logique. C'est pour ça que le Seigneur a voulu également nous parler au travers d'images de la vie, l'agriculture, la viticulture, pour nous montrer des réalités, des principes divins. C'est tellement, ça c'est la compréhension de chacun d'entre nous ce matin. Hein. Si le cep est là, si le sarment n'est pas rattaché au cep, la vie ne peut pas couler. C'est cette image de pouvoir demeurer dans notre Seigneur afin que la vie coule dans, en chacun d'entre nous et que nous puissions également porter du fruit et que ce fruit, il soit en abondance. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Pas juste un petit fruit, mais un fruit en abondance. Quand on fouille dans la Bible et dans l'étymologie du mot de demeurer, dans le dictionnaire biblique, la définition de demeurer, il y a cette idée de rester. Rester en référence à un lieu où on va séjourner. La définition de demeurer, c'est s'attarder, ne pas partir, continuer, persévérer. Et on voit partout dans la Bible que c'est bien de pouvoir commencer. Mais la Bible nous dit que et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup se sont engagés avec le Seigneur et puis à un moment donné ont reculé. Donc il faut demeurer en Christ, séjourner en lui. Et on sait que ça peut être un piège. Regardez le neveu de Lot, d'Abraham, donc Lot, qui lui avait tout pour être béni. Il était au bénéfice de la bénédiction de Dieu au travers d'Abraham. Abraham va recevoir donc cet appel du Seigneur à quitter là où il est, parce que le Seigneur, donc, il allait être une source de bénédiction. Puis à un moment donné, vous savez peut-être, je ne sais pas, la routine, l'esprit d'indépendance, il a voulu voir ailleurs. D'ailleurs, il s'est laissé avoir par ce qu'il voyait au loin. Et quand il va y avoir une évidence, donc un choix à faire, eh bien, notre troupeau, le troupeau que l'on a en commun, eh bien, en fait, il est trop grand, il faut qu'on puisse se séparer. Et là, on voit l'homme de Dieu qui lui dit, mais choisis-toi. Et moi, je m'adapte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, ses regards étaient sur le Seigneur. Il savait que le Seigneur, donc, l'avait appelé. Et comme le Seigneur l'avait appelé, il avait un plan et qu'il allait, en fait, s'occuper de lui. Alléluia. Amen. Et mais lui, Lot, il va regarder, là, donc, cette plaine, qui, assurément, elle devait être magnifique, hein, pour qu'il soit attiré comme ça. On sait les conséquences que ça va avoir, hein, dans sa vie. Il a des conséquences terribles. Parce que, donc, il n'est pas demeuré. Il aurait pu choisir de ne pas partir trop loin pour être, donc, dans la sphère de la bénédiction de son oncle. Il va choisir de pouvoir s'éloigner, peut-être un esprit d'indépendance. Attention aujourd'hui à cet esprit d'indépendance. Je fais ce que je veux. Cette liberté. Moi, j'aime beaucoup dans la Bible parce qu'il est dit qu'avant, nous étions esclaves du péché. Et l'apôtre Paul, il va dire, maintenant, je suis devenu esclave de Dieu. Waouh. Aujourd'hui, quand on le dit, ah, ça peut... Mais les mots, ils sont forts. Hein. Alors ça, ce n'est pas des petits détails. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Esclave de Dieu, quand le Seigneur, par son Saint-Esprit, a mis cette pensée pour que l'apôtre Paul puisse l'écrire afin que nous puissions aujourd'hui, en 2024, pouvoir en bénéficier, c'est parce que c'était tellement important. Être esclave de Dieu. Alors la question, elle est celle-ci. Hein. L'êtes-vous ? Est-ce que votre vie dépend de Dieu ? Ou alors il y a cet esprit un peu d'indépendance. Je fais ce qui me plaît. Quand il y a cet état d'esprit dans une vie, on sait comment ça va se terminer. Hein. Parce que les penchants de nos cœurs, on sait où l'arbre, justement, hein, va tomber, hein, quand il y a une inclinaison. Alors, ne pas suivre cet exemple de l'autre. Il y a également cet esprit de dépendance. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu prêcher sur le fils prodigue ? Ben oui, hein. Je lis ça, c'était juste pour... Mais évidemment, on a tous entendu au moins un sermon, une prédication sur le fils prodigue. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben lui, il se dit, ben, chez mon père, ça ne me va pas. Il y a un peu cet esprit de rébellion. Je vais voir si l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Résultat, il revient, il a tout perdu. Il a tout claqué, hein, c'est le mot, hein. Il a tout claqué parce que ça ne dure qu'un temps. Puis, moi, je bénis le Seigneur parce qu'à un moment donné, il est dit que sa conscience va se remettre en route. Et dans nos réunions de prière, on prie pour que les consciences se réveillent, afin que les personnes que nous côtoyons puissent réaliser que finalement, ils vont droit dans un mur. Donc cette conscience va se réveiller et puis il va réfléchir. Et il va se dire, mais en fait... Quand j'étais chez mon père, j'avais tout en abondance. Et là, aujourd'hui, je me retrouve là. Dans nos vies, il faut faire des constats, hein, régulièrement. Il faut qu'on puisse examiner notre cœur. Et donc, il se dit, lui, ben, je vais aller chez mon père. Et là où on voit qu'il y a cette repentance dans son cœur, c'est parce qu'il dit, je vais aller chez mon père. Et je vais lui dire, traite-moi comme un de tes serviteurs. Quel état de cœur ? En fait, il avait tout compris. Que va faire le père ? Il nous a dit, alors petit détail, hein, rappelez-vous bien, hein, il nous a dit que le père, voyant au loin son fils, alors quand on lit ça, on se dit, tiens, voilà. Hein, en fait, ça sous-entend que tous les jours, le père examinait la route par laquelle son fils pourrait revenir. Et il regardait pour voir si la silhouette de son fils, elle pouvait revenir, s'il avait été interpellé. Et puis un jour, le fameux jour, Il voit son fils. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne l'attend pas avec un bâton pour lui dire « T'étais où ?» Il court, il soulève sa robe, il court vers son fils, il l'attrape par le cou et il l'embrasse sans qu'il puisse avoir eu le temps de dire quelque chose. En fait, il l'attrape par le cou et il l'embrasse. Alors, encore une fois, petit détail, on se dit, mais bon, il l'a embrassé, c'est son fils. N'oubliez surtout pas qu'il sentait encore le cochon. C'est quoi l'image? L'image, c'est que Christ, le Fils de Dieu, le pur, le saint, a quitté son ciel de gloire pour venir nous chercher là où nous étions, en fait, parmi les cochons, le péché, la boue. Et le Seigneur est venu, alléluia, il est venu nous sortir de là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a sortis de là, il nous a lavés, amen, et il nous a mis sur son ferme rocher, il nous a restaurés. C'est l'œuvre du Seigneur qu'il accomplit dans nos vies. Que son nom soit béni. Alors attention à cet esprit d'indépendance, mais surtout à demeurer en Christ. Il y a, quand on parle, on partage sur un arbre en bonne santé, la Bible nous en parle. Le psaume 1er. Vous connaissez également ce passage. Psaume 1er, si tu peux l'afficher. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Alors, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, alléluia. Vous savez, des fois, pour avoir une compréhension un peu plus éclairée de certains passages, essayez de réfléchir au contraire. C'est-à-dire, qui veut réussir? Qui veut réussir sa vie? Ben, tous. Alors, il faut qu'on soit planté près de ce courant d'eau, parce que quand on est planté près de ce courant d'eau, alors, les racines, elles vont aller s'étendre pour aller chercher cette eau. Et le résultat, c'est que l'arbre, il sera toujours vert. Que Dieu fasse que notre Église soit remplie d'hommes et de femmes toujours verts. Et pas secs. C'est ça le contraire. Vert, plein de vitalité, plein de vigueur. Alléluia. Et ce n'est pas que l'expression d'un caractère, mais être dans la vigueur, donc dans le zèle, dans ce bouillonnement que nous donne le Saint-Esprit parce que nous sommes en relation avec lui. Amen. Donc, un arbre en bonne santé, vigueur, vitalité, mais également enthousiasme. Il faut qu'on soit dans cet enthousiasme. Des fois, on peut perdre cet enthousiasme, on l'a vu dimanche dernier. Il donne du fruit en sa saison. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. Et que ce fruit, il demeure. Pour une nouvelle saison, de nouveaux bourgeons, de nouvelles branches. Et au plus le temps passe, au plus l'arbre, il s'affermit, il grandit parce qu'il est à la bonne place. Que Dieu fasse également que nous puissions rester fermement attachés à Christ. Et donc, il y aura une conséquence à ça. C'est qu'on va être attaché à l'église locale. Eh oui, hein. Donc, l'église locale. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a des personnes qui sont, en fait, à la recherche de l'église parfaite. Et donc, les dimanches, ils vont visiter l'église parfaite. Moi, ces personnes, j'aimerais leur dire, vous savez quoi? Vous la trouverez jamais. Parce que, en fait, on est bien imparfait. Et donc, quand des imparfaits sont ensemble, forcément, il y aura des difficultés, des problèmes. C'est la réalité des choses. Mais le Seigneur, lui qui est parfait, a déposé cette graine dans nos cœurs afin que nous tendions vers cette perfection. Parce que souvent, quand on dit « Ah, mais je ne suis pas parfait », c'est simplement pour excuser et de se dire « Laissez-moi tranquille, en fait ». Que le Seigneur nous aide, vraiment, à être de ceux et de celles avec voilà, des nouveaux bourgeons, nouvelles branches. Alléluia. Le feuillage ne se flétrit point. C'est un symbole de force et de prospérité. Alors, on ne prêche pas l'évangile de prospérité, hein. Mais je crois de tout mon cœur. Quand on est proche du Seigneur, quand on a cette relation avec lui, il ne nous laisse jamais tomber. Tous nos besoins, alléluia, vitaux, ben le Seigneur, hein, il s'en préoccupe. D'ailleurs, il va le dire. Hein. Il va dire que ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'il s'occupe des moineaux qui sont dans le ciel. Quelle belle image, encore une fois. Hein. On va dire des petits oiseaux insignifiants. Mais qui ont de l'importance pour le Seigneur parce qu'il les nourrit. Alors il dit, ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine. Ça ne sous-entend pas qu'on doit vivre tranquillement, évidemment, c'est pas ça hein, le but de ce passage-là. Mais en tout cas que le Seigneur nous aide à vivre donc cette vie de force et de prospérité parce que le Seigneur, il nous rend prospères, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit, c'est les conséquences d'une vie mature. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quel est le secret de cet arbre pour qu'il soit en bonne forme? Trois choses à ne pas faire. Il ne marche pas, première chose, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas et il ne s'assied pas. Vous voyez là la progression, verset 2. Verset premier. Heureux l'homme qui ne marche pas, voilà, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. D'abord, il marche, il y a un mouvement. Puis, à un moment donné, il est arrêté jusqu'à s'asseoir. Alors que le Seigneur attend que chacun d'entre nous, nous soyons trouvés debout jusqu'à son retour. Alléluia. Donc, il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà le secret. Est-ce que votre plaisir se trouve dans la loi de l'Éternel? J'espère que oui. Hein. Vous lirez également Josué chapitre 1, versets 8 et 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, eh, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et alors, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu vas réussir. Alors ici, quoi de plus à faire pour nous? C'est simplement d'appliquer cette parole. Dire, Seigneur, ta parole dit cela, alors je veux l'appliquer dans mon cœur. Et ensuite, laissez le Seigneur faire. Et vous allez voir que le Seigneur, il est grand, il est au-dessus de ce qu'on peut penser même ou imaginer. Et puis on aura l'occasion, une fois que le Seigneur aura agi dans nos vies, de pouvoir le raconter aux personnes que l'on côtoie, en leur disant, vous savez quoi? Moi, je connais le Dieu vivant et vrai qui est capable d'intervenir dans n'importe quelle situation. Mais au préalable, j'aurais fait cette expérience avec lui. On ne parle pas comme, sans savoir. Toutes les choses qu'on dit, c'est parce qu'on les a expérimentées. Amen. Il y a une recette du bonheur. Hein. Cette recette du bonheur, c'est pour ça qu'il y a un passage similaire. Quand je l'ai trouvé, j'ai dit, tiens, au psaume 1er. Regardez, il y a pas mal de similitudes avec Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Donc, hein, en référence aussi au psaume 1er. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. C'est miraculeux en fait. Parce qu'il est dit, l'année de la sécheresse, quand l'épreuve va venir, il va porter du fruit. Pourquoi? La raison, c'est que ses racines, elles sont plantées donc près des eaux. Restons près du Seigneur, qui est la source d'eau vive. Alléluia. Alors, nos vies seront évidemment en bonne santé. Que le Seigneur soit béni. Cet homme, il est béni parce qu'il se confie tout d'abord en l'Éternel. Ayons confiance en l'Éternel. Ne nous focalisons pas sur ce qu'on voit. Parce que quand on se focalise sur ce qu'on voit, c'est là où on peut être déstabilisé. Mais nous devons nous focaliser et marcher. C'est ça, la marche par la foi. C'est je fais confiance au Seigneur et je sais qu'il va agir. Il étend ses racines. Donc, progression. Les conséquences, il n'aperçoit point la chaleur et le feuillage reste vert, toujours pareil comme le psaume premier. Dans l'année de la sécheresse, donc, elles viennent toujours, dans un temps défini par Dieu. Est-ce que vous savez que les problèmes, les difficultés, les épreuves que vous pouvez traverser, ça va s'estomper, ça va s'arrêter? Peut-être ici-bas, grâce de Dieu, mais sûrement quand nous allons nous retrouver là-haut. Parce que la Bible nous dit, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de maladies, quand on sera là-haut. Plusieurs, et j'ai entendu ce matin, dans leur louange, on dit, Seigneur, quand nous allons nous retrouver là-haut, c'est l'espérance dans nos cœurs. Hein. J'espère que vous avez cette espérance. Disant, mais moi, je suis en route vers le ciel. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, point de crainte, et portez beaucoup de fruits. La question suivante à laquelle... nous devons la poser et y répondre. Où doivent plonger nos racines? Premièrement, dans l'amour. Nos racines doivent plonger dans l'amour en tant qu'Église. On doit être connu pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. Éphésiens, chapitre 3, le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans... l'amour, alléluia, amen. Ce n'est pas un concept, l'amour. Hein. L'amour, c'est autre chose. L'amour, il se prouve. Romains, chapitre... au préalable, voilà. Si on peut dire qu'on aime le Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous a aimés le premier. Donc, tout d'abord, 1 Jean 4, 19. Voilà. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas vous, hein. Mais moi, en tout cas, avant de connaître le Seigneur, je n'étais pas aimable. Et pas du tout. Pas du tout. Si quelqu'un pense qu'il était aimable, c'est pas comme ça que le Seigneur nous voyait. Le Seigneur nous voyait avec cette nature pécheresse attachée à notre vie. Et justement, il a voulu nous en délivrer. Alléluia. Donc, on voit que lui, il nous a aimés le premier. Et comme il nous a aimés le premier... il l'a prouvé, cet amour. Parce que l'amour se prouve. Parce que moi, si je vous dis que je vous aime, mais qu'il n'y a pas de fait concret, vous allez dire, il brasse du vent. Hein. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En fait, ici, on voit que l'amour de Dieu a été prouvé par l'envoi de Jésus-Christ, dont le Fils de Dieu est venu sur terre, et il nous dit que nous étions, quand nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce que ça sous-entend? Avant que nous ayons eu le temps de faire une seule bonne œuvre, le Seigneur avait déjà envoyé son Fils. Alléluia. C'est le moyen. Notre seul message en tant qu'Église, c'est que Jésus... c'est le seul chemin qui mène au cœur du Père. Il n'y en a pas d'autre. Alors certains pourraient dire, c'est tellement exclusif. Alors là, il faudra s'adresser à Dieu. Hein, parce que c'est comme ça que Dieu l'a prévu. Et c'est le seul moyen. Et les personnes qui sont bien sous tout rapport, hein, des fois même dans nos connaissances, hein, on se dit, il leur manque simplement que le Seigneur. Alors c'est pas, il leur manque que le Seigneur. C'est finalement la seule chose nécessaire qui leur manque. Parce qu'on peut être gentil, on peut être, je ne sais pas, inséré dans la société, avoir une bonne situation, mais si on n'a pas le Seigneur, alors on n'a rien du tout, on est pauvre. Et le Seigneur, lui, a prouvé cet amour, il a montré de l'intérêt pour chacun et chacune d'entre nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peut-être tu es en train souvent de te dévaloriser. Sache s'il y avait eu que toi sur cette terre qui aurait eu besoin de pardon, le Seigneur aurait envoyé son Fils pour toi. On doit l'expérimenter. L'amour de Christ, avant de le connaître, de pouvoir l'expérimenter et le vivre. Donc faire connaître cet amour autour de nous. C'est pour ça que finalement, ce que l'on désire, il y a comme un feu, va dire encore une fois l'apôtre Paul, un feu dans mon cœur de pouvoir... Malheur à moi, il va dire, c'est fort là aussi, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Nous sommes appelés à ça. Nous sommes rassemblés pour que le Seigneur soit formé en chacun d'entre nous afin que nous soyons de ceux et de celles qui dispensent le beau, le seul message et le vrai message du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un faux évangile. Vous le savez. Il y a un faux évangile qui nous dit « Viens au Seigneur avec tes compétences. Dieu a un plan pour toi. » En fait, à sa brosse dans le sens du poil pour dire « En fait, t'es le meilleur, t'es le plus beau. » La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu. La sentence, elle tombe. Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. Mais il y a quand même ce moyen où le Seigneur dit, en fait, tu es un pauvre pécheur. Si tu le reconnais et que tu es dans la repentance, si tu fais confiance au Seigneur, si tu crois que Dieu a envoyé donc son Fils Jésus-Christ à la croix du calvaire, il nous dit qu'à partir de ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Et ça, c'est le plus grand, le plus beau de tous les miracles. Peut-être ce matin, moi je le crois, c'est déjà arrivé, pendant une prédication, pendant le partage de la Sainte Cène, on a assisté à des miracles extraordinaires, des personnes avec des problèmes physiques. Là comme ça, dans la simplicité, une action de Dieu, une action du Saint-Esprit, les personnes guéries. Mais le plus grand, le plus beau de tous les miracles, c'est quand un homme, une femme passe de la mort à la vie et des ténèbres à son admirable lumière. Parce qu'en fait, on peut demander au Seigneur une guérison physique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, nos yeux vont se fermer ici-bas sur terre. Que faire de l'éternité? Où passer l'éternité? Et le Seigneur nous dit, dans sa volonté, Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous sommes des transmetteurs de cette vérité, des panneaux indicateurs. Il y en a qui se prennent pour certains, mon ministère, moi ceci, cela, des titres ronflants. En fait, on n'est que des panneaux indicateurs, en disant la solution, elle est là. On n'est que des simples hommes, en fait, femmes, mais on s'attache au Seigneur parce que nous avons découvert une vérité. Ça a bouleversé notre vie. Si quand vous vous êtes donné au Seigneur, ça ne vous a pas bouleversé, si ça ne vous a pas transformé, eh bien, ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas expérimenté la vie que le Seigneur donne. Parce que la vie que le Seigneur donne nous bouleverse, nous change, nous transforme. Je vous promets qu'aujourd'hui, j'ai mis mon costume bleu, je n'ai pas toujours été avec mon costume bleu. Qu'est-ce que je sous-entends par là? Ce que j'avais une vie avant, elle n'était pas glorieuse. Il y a eu un changement, un bouleversement, un arrêt de la part du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie, là, aujourd'hui, si je n'avais pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur. Je ne sais pas ce que je serais devenu. Sûrement, j'aurais mal tourné, vu le chemin que je prenais. Mais il y a eu un arrêt de la part du Seigneur. Et notre seul message, c'est celui-là. Aujourd'hui, nous dit la parole, si tu entends sa voix, tourne-toi vers lui, ouvre ton cœur et fais cette expérience. Alléluia. Moi, je n'ai pas la capacité de savoir qui, ce matin, est passé par cette expérience et qui est passé par cette nouvelle naissance. Je n'ai pas cette capacité. Mais le Seigneur a cette capacité de voir au fond de nos cœurs. Et lui, il sait qui est sauvé ou qui ne l'est pas. Vous avez l'opportunité ce matin. Ceux qui ne le sont pas. Parce que la parole, elle a aussi ce pouvoir, c'est de convaincre de péché. Et ce matin, le salut se trouve qu'en Jésus-Christ, amen. Tu peux ce matin être rentré perdu et sortir sauvé. C'est possible. Le plus grand de tous les miracles, que le Seigneur soit béni. Alors oui, les racines plongées dans l'amour. Quand il manque des racines, qu'est-ce qui se passe? Alors on sèche. Deux versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 6. Mais quand le soleil parut, vous rappelez, c'est l'histoire des terrains. Et la graine qui tombe, un certain terrain, voilà. Et donc ici, il est dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, elle sécha, faute de racines. Quand il n'y a pas les racines, on ne peut pas survivre. Ce qui fait que l'on dessèche, il y a certaines choses. Je me redirai aussi quelque chose pour que ce soit clair, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin, s'il y a un manque de pardon dans ta vie, assurément, tu vas dessécher. Alors, il y a des choses qui sont faciles à pardonner. Un enfant, quelqu'un nous bouscule en partant tout à l'heure, nous marche sur les pieds, on n'aura pas de difficulté à accorder un pardon. Quand il y a eu de l'abus, quand il y a eu, à cause de quelqu'un, une situation qui nous a déchiré, c'est difficile le pardon. Mais le Seigneur ne nous a pas parlé de facilité. Il nous a simplement dit que c'était possible. Ce matin, tu as la possibilité d'accorder le pardon. Alors quand je parle de pardon, ça ne veut pas dire renouer avec la personne comme si rien n'était passé, jamais de la vie. Des fois même, c'est dangereux de revenir un peu en arrière. Mais c'est d'en être libéré. Que la situation n'ait plus d'impact sur ma vie. C'est ça, accorder le pardon. La Bible nous en parle et on doit évidemment le faire. Ce qui fait que l'on peut dessécher, c'est l'indiscipline. Le disciple, il est discipliné. C'est également vivre un peu à moitié. Un peu du Seigneur, un peu du monde, un peu de spiritualité, un peu de religion, et puis on s'accommode comme ça. La parole nous dit que si le Seigneur n'est pas le maître de tout, il est le maître de rien du tout. Manque de vie de prière, manque de lecture de la parole, et puis le péché, donc la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, il y a les principales, quand on dessèche, c'est parce que ces choses-là sont dans nos vies ou commencent à prendre de la place. On ne résistera pas quand la tribulation, la persécution, elle sera là. Regardez encore donc le second passage de Matthieu 13, 21 cette fois-ci. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute parce qu'il n'y a pas de racine. Vous voyez l'importance de la racine, des racines. Alors il y a un appel à résister ce matin. Éphésiens 6, 13. Éphésiens 6, 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, quelle est la raison, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un appel ici à résister. Résister à l'ennemi, résister à certaines pensées. Résister à ce que le monde veut nous offrir. Et des fois, quand il y a un appel à résister, nous, on pourrait sous-entendre, je dois résister avec le bouclier de la foi, je suis sous le bouclier, j'attends que ça passe. Ce n'est pas le mot qui est employé ici. En grec, le mot pour résister, c'est antithésmie. Et antithésmie, c'est être contre, c'est supporter, c'est également opposer une force à une autre. C'est-à-dire, je suis actif dans le combat. C'est j'oppose une force à une autre. Alors, pas la mienne, parce qu'on ne résiste pas. Mais la force que nous avons puisée auprès du Seigneur sera suffisante pour résister à l'adversaire en lui disant, il est écrit dans la parole. Que le Seigneur ne m'abandonnera pas, quand vient le doute, ce sentiment d'abandon, sentiment de solitude. Le Seigneur nous dit, mais je serai avec toi. Je serai là. Et ça, on doit vraiment l'appliquer dans notre cœur. Donc, opposer une force à une autre, il y a également des racines, les racines où elles ne doivent pas plonger. L'amour de l'argent. Est-ce que ça sous-entend que le Seigneur est contre l'argent? Jamais de la vie. Contre l'argent, je veux dire. Hein, parce que c'est l'amour de l'argent qui est un problème. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors voilà où nos racines ne doivent surtout pas se plonger. et également la racine de l'amertume. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, à un moment donné, quand il y a l'arrachage de la vigne ou, je ne sais pas, certains champs d'autres choses, mais il faut passer... Ils font passer le tracteur avec le labour pour aller en profondeur, enlever les minuscules racines. Pourquoi ? Parce que si on laisse ces racines-là, assurément, elles vont ressortir à un moment donné. Ça sous-entend qu'à un moment donné, il faut être radical. Qu'aucune racine d'amertume pousse dans nos vies, poussant comme des rejetons, c'est l'image ici, hein, ne produisent du trouble. Donc on voit que ça, si ça pousse, ça va amener du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je conclue avec ce verset d'Ézéchiel 31, 7. Plongeons vraiment nos racines afin que nous soyons trouvés en bonne santé. Il est beau, parler ici d'un arbre, par sa grandeur, par l'étendue de ses branches. Regardez la seconde partie du verset. Car ses racines, elle plongeait dans des eaux abondantes. Amen. Voilà le secret pour une vie abondante. Si nous voulons vivre l'abondance que le Seigneur nous a promise à chacun d'entre nous, dans Jean chapitre 10 et le verset 10, alors nos racines, elles doivent plonger dans tout ce qu'on a vu, que nous puissions nous laisser interpeller par le Seigneur, et le Seigneur va nous bénir. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole, cette parole qui est la vérité, cette parole qui s'est trouvée le chemin de nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, nous l'avons partagée, je l'ai partagée. Seigneur, mon Dieu, elle a été, Seigneur, mon Dieu, apportée. Et nous voulons te demander maintenant, Seigneur, mon Dieu, de confirmer ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait des décisions qui sont prises là, maintenant, afin que les racines, Seigneur, sois plongé vraiment dans tes fleuves d'eau vive, afin que nous soyons trouvés en bonne santé. Seigneur, une église qui va de l'avant, hein, Seigneur, qui progresse en maturité, Seigneur mon Dieu, en stature. Nous te demandons vraiment de bénir mes frères et sœurs, tous ceux qui sont là ce matin, qui ont entendu, qui ont eu besoin d'entendre cela. Seigneur, tu as voulu nous le rappeler ce matin, Seigneur mon Dieu. Et qu'en toute chose, ton nom soit béni, glorifié et élevé. Amen et amen. Gloire au Seigneur. Amen.